deux thèmes pour l'émission de ce soir. L'épidémie d'Ebola déclarée urgence sanitaire mondiale, la décision a été prise et annoncée mercredi dernier à Genève par l'Organisation mondiale de la santé, OMS en sigle. 6 mois après l'investiture du nouveau président de la République, le pays est toujours sans gouvernement avec 2 premiers ministres. L'un expédie les affaires courantes et celui nommé il y a près de 2 mois n'a toujours pas formé son équipe. Tels sont les thèmes principaux de ce soir dans Tribune de la Presse. Et nous avons ici au studio Claude Molucho Kayembe, il est journaliste à la Radio-Télévision Nationale Congolaise RTNC. Il est aussi coordonnateur national des communicologues du 3e millénaire. Bonsoir Claude Molucho Kayembe.
Bonsoir Guy Maté, bonsoir à tous les auditeurs de Radio Okapi.
Lui, il est au téléphone, c'est Joël Kadé, il est éditeur du journal Impact News, paraissant à Kinshasa. Bonsoir Joël Kadé.
Bonsoir chers confrères, bonsoir aux auditeurs.
Et Brunel Kachi, journaliste à Life Télévision, émettant des Kolwezi, province de Lualaba. Bonsoir Brunel Kachi.
Bonsoir chers confrères, bonsoir à tous les auditeurs de la radio.
Bienvenue à tous dans cette émission. Nous allons commencer par écouter cette revue de presse pour savoir comment la presse quinoise a traité l'actualité de la semaine. Quelle écouter?
Bonsoir. Les journaux parus cette semaine à Kinshasa se sont intéressés au retard accumulé pour la sortie du gouvernement Ilunga et l'évolution de l'épidémie d'Ebola. Le Phare informe Ebola déclaré urgence sanitaire mondiale, ce que les autorités politiques et sanitaires congolaises redoutaient depuis 11 mois après l'apparition de l'épidémie à l'est du pays est malheureusement arrivée. La fièvre hémorragique Ebola vient d'être déclarée urgence sanitaire mondiale, indique le journal. Précisons que c'est le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé en personne, Dr Tedros Adhanom, qui l'a fait savoir à toute la planète. Ebola, après la déclaration de l'urgence, la RDC attend une plus grande transparence dans la gestion des fonds qui seront collectés, annonce actualité.cd. À ce sujet, le média en ligne reprend les propos du ministre congolais de la Santé, je cite, « Alors que le gouvernement continue de partager ouvertement avec les partenaires et les bailleurs des fonds la manière dont il utilise les fonds reçus, nous espérons qu'il y aura une plus grande transparence et redevabilité des acteurs humanitaires par rapport à leur utilisation des fonds pour répondre à cette épidémie d'Ebola. » Fin de citation. Quittons la santé pour parler politique. À présent, nommé le 20 mai 2019 au poste de Premier ministre, Sylvestre Ilunga Ilukamba n'a pas encore de cabinet. Les discussions de Mbola Lodja qui s'entourent dans le Congo central entre les délégués du FCC et du CACH ont accouché d'une souris. Tout comme les groupes restreints qui a poursuivi les négociations au Rotana Kinplaza Kinshasa informe le potentiel parlant d'un blocage qui ne dit pas son nom. Le journal elle insiste par ailleurs sur l'urgence des remises et reprises Tshibala Ilunga. Des voix s'élèvent désormais pour exiger le départ du Premier ministre sortant afin de débloquer l'appareil de l'État. Et selon l'éditorialiste de la prospérité, l'impasse politique que traverse la RD Congo semble atteindre d'ores et déjà un paroxysme qui ne dit plus son nom. 6 mois se sont écoulés depuis l'ouverture de la session extraordinaire de janvier. La chambre haute du Parlement, quoique en vacances parlementaires, n'a malheureusement pas un bureau définitif. La justice qui bat de l'aile avec les récents éclats de la Cour constitutionnelle résume la prospérité. Le quotidien indexe l'accord politique entre la coalition FCC-CACH qui continue à bloquer le bon fonctionnement du pays. D'où l'avertissement du Forum des As, FCC-CACH, le peuple attend. Ce peuple que les acteurs politiques évoquent matin, midi et soir de manière désincarnée fait remarquer le quotidien avant de poursuivre. Suivre, je cite, c'est vrai, des dividendes démocratiques depuis des lustres. Le voilà, à nouveau pris en otage par des épreuves des forces entre vainqueurs des élections de décembre 2018, des postures tactiques afférentes, des courses à l'échalote dans la perspective de la redistribution des cartes.
Merci à vous, Kelly Nkouté, Claude Molucho Kayembe, journaliste à la Radio-Télévision Nationale Congolaise RTNC. Vous êtes aussi coordonnateur national des communicologues du 3e millénaire. L'actualité cette semaine était abondante. Il y a notamment cette crise au sein du FCC avec la radiation du sénateur Bahati Lukwebo.
Oui, vraiment, Est-ce que peut-on appeler ça crise? Bien sûr, mais c'est un problème au niveau du regroupement politique AFDC et Alliés. Vous savez qu'il y a une différence entre le parti politique AFDC et le regroupement politique AFDC et Alliés. Parce que le regroupement politique a été constitué avec d'autres personnalités pour aller aux élections du 30 décembre 2018. Ce n'est pas une propriété de Bahati Lukwebo. La propriété de Bahati Lukwebo, c'est AFDC tout court. Et ça, il faut vraiment faire cette distinction à l'intention des auditeurs. Mais aujourd'hui, au niveau des AFDC et Alliés, c'est Mme Néné Nkoulou qui en est la présidente, parce qu'il est, jusqu'à preuve du contraire, présidente du groupe parlementaire de ces regroupements politiques. Et il y reste, et avec les autres, les Mbikaï et les autres, ceux qui sont partis, ils sont restés dans l'AFDC ou je ne sais pas comment est-ce qu'ils vont appeler cela. C'est sale. Ce sont des textes qui le disent. Et je pense
Monsieur Bahati Lukwebo affirme que Mme Néné Nkoulou n'est pas légitime.
Non. En ce qui concerne l'AFDC, oui. Mais en ce qui concerne l'AFDC est allié. C'est un regroupement, c'est une association, si on peut la qualifier ainsi, une association des gens qui se sont organisés et ils forment le label un regroupement politique qui va leur permettre d'accéder au pouvoir par la voie des élections. Parce qu'il fallait se regrouper pour se présenter aux élections, ce qui a été fait avec AFDC et Alliés. Et AFDC tout court, comme parti politique, c'est l'affaire de Bahati Lukwebo.
Merci Joël Kadé Danga, éditeur du journal Impact News, paraissant à Kinshasa. Qu'est-ce que vous commentez ce soir?
Non, avant de commenter mon sujet pour dénoncer le complot à l'UNPC dans une crise, moi je n'ai jamais compris mon ami Molucho qu'il met au service de l'immoralité pour soutenir que les textes disent que Néné Nkoulou est membre de l'AFDC. Elle a été élue sur la liste des AFDC. L'AFDC allié, ce n'est pas... les textes ne disent pas que Néné remplace automatiquement Bahati. De quoi a-t-on peur au niveau du FCC? FCC qui n'existe pas, parce que l'AFDC allié existe. Allez à la CENI, allez à la Cour constitutionnelle, allez au ministère de l'Intérieur, sortez-moi un recouvrement politique qui s'appelle FCC. Le truc où Kabila s'est autonommé et formateur du gouvernement pour enlever les manœuvres de consultation à travers un informateur qui allait indiquer à Félix, le premier ministre a désigné. Mais le sujet qui m'intéresse dans l'actualité, c'est ce complot monté par les anciens présidents de l'UNPC qui veulent torpiller l'organisation du congrès qui était déjà en cours et pour lequel Kasonga Tchouloné avait déjà obtenu un financement. Ils ne veulent pas qu'il le dirige. Ils veulent couvrir les anciens journalistes, les journalistes inopposés qui conduisent la commission de discipline et d'éthique professionnelle, qui n'exercent plus, mais qui doivent connaître les fautes professionnelles d'une profession qu'ils n'exercent plus. Alors nous dénonçons ces complots-là parce qu'on comprend aujourd'hui que tous les coups qui ont été montés contre Kasonga Tchouloné durant les 4 dernières années de son mandat ont été montés par ses anciens présidents qui me semblent être jaloux de réalisation du rayonnement de l'UNPC qu'ils avaient conduite dans le gouffre. Voilà un
peu ce
que je devais commenter.
Joël Kadé Danga, le bon sens ne vous autorise pas à traiter les confrères des journalistes ménopausés, n'est-ce pas?
Non, non. Il y a des journalistes qui ont signé. Ce sont nos statuts qui le disent. Quand vous n'exercez plus la profession, vous ne pouvez plus être membre de l'UNPC. Il y a ces journalistes, nos confrères-là, qui n'exercent plus la profession. Leur dernière parution date de la Conférence nationale souveraine. Comment quelqu'un comme ça peut être membre de la commission de discipline?
Merci, Joël. Merci, Brunel Kachi, journaliste à Life Télévision et mettant des Kolwezi, province de Lualaba. C'est quoi l'actualité ce vendredi à Kolwezi, Lualaba?
Voilà, chers confrères, merci pour avoir considéré notre modeste personne à nous associer à cet échange un peu professionnel des médias. Mais l'actualité sur le plan local, ici quand même l'actualité reste émaillée par différentes questions d'actualité politique, mais au moins la situation est calme. L'occasion pour moi de saluer la vibrante réélection du gouverneur Richard Mouillège à la tête du gouvernement provincial, mais aussi l'investiture plutôt de son gouvernement la semaine dernière. Mais la question qui continue quand même à défrayer la chronique, c'est la prévision des éléments des états d'essai dans certains quartiers de la ville. Une commission spéciale des députés provinciaux, avec à la tête les députés de la Team Gauche, avait effectué une descente sur le champ et avait dénoncé et condamné des forfaits orchestrés par les éléments des forces communes plutôt à la garde de la Conception en mine à ciel ouvert qu'à Montoro-Sa compagnie. Ce qui est aberrant, chers confrères, ici, c'est l'effet de voir que nous avons certains éléments des forces armées en République démocratique du Congo qui font vraiment preuve des manques d'humanisme ou d'une notion d'humanisme en pillant, exporter, tabasser la population en dehors des installations où ils sont commis. Vraiment, les présidents de la République doivent faire quelque chose pour essayer d'intervenir dans ce secteur, parce que vous vous souviendrez que ces éléments plutôt des forces armées sont ici dans la province du Lualaba, à l'initiative du gouvernement central. Voilà où est l'actualité qui est en train de défrayer la chronique dans la province du Lualaba actuellement.
Merci Brunel Kachi. Notre premier thème de ce soir, l'épidémie d'Ebola déclarée urgence sanitaire mondiale. La décision a été prise et annoncée mercredi dernier à Genève par l'Organisation mondiale de la santé OMS en sigle, qui a aussi rappelé que la maladie a déjà coûté la vie à près de 1700 personnes en RDC. Son directeur général estime qu'il est temps pour le monde de prendre acte de l'épidémie. Tedros Adhanom recommande cependant que les frontières de la RDC avec ses voisins restent ouvertes. Les détails avec Alain Irongo.
L'agence spécialisée de l'ONU sur la santé a pris sa décision après la découverte d'un cas mortel dans la ville de Goma, située à la frontière avec le Rwanda. En juin, deux cas avaient également été détectés en Ouganda voisin. L'urgence sanitaire mondiale est une mesure exceptionnelle qui n'a été décrétée que quatre fois seulement par l'OMS, en 2009 pour la grippe H1N1, en 2014 pour la poliomyélite, en 2014 pour l'épidémie d'Ebola qui a fait plus de 11 300 morts dans trois pays d'Afrique de l'Ouest, le Libéria, la Guinée et Sierra Leone, et en 2016 pour le virus Zika. Les experts du comité d'urgence réunis à Genève depuis mercredi midi ont exprimé leur déception au sujet des retards dans le financement de l'aide. Il est crucial que les États n'utilisent pas le statut d'urgence mondiale comme excuse pour imposer des restrictions au commerce et aux déplacements qui auraient un impact négatif sur la réponse sanitaire et sur la vie de la population dans la région, a souligné le professeur Robert Stephen, chef du comité d'urgence de l'OMS.
Merci à vous Alain Irung. Claude Molichot, journaliste à la Radio-Télévision Nationale Congolaise RTNC. Vous êtes aussi coordonnateur national des communicologues du troisième millénaire. L'épidémie d'Ebola déclarée urgence sanitaire mondiale. Une nouvelle plutôt inquiétante.
Une nouvelle inquiétante, très inquiétante même, Guy Maté. Mais j'ai juste une minute pour recadrer un peu Joël Kadé, parce qu'il a parlé des journalistes qui sont jaloux de Kassonga Chilundé pour ses réalisations. Quelles sont les réalisations de Kassonga Chilundé 4 ans après aujourd'hui? On sait tout ce qu'il a fait, et il a traité même un groupe de journalistes à qui à sa cause ou à ses causes, parce qu'on l'a vu dans des dossiers noirs. Il n'y a personne qui est jaloux de Kassonga Chilundé, mais c'est la gestion de l'UNPC qui n'est pas orthodoxe. Ça, voilà. C'est entre parenthèses. Mais parlons d'épidémie Ebola. Ebola, ça fait presque une année, c'est depuis août 2018 que cette maladie est déclarée au niveau de
Nord Kivu et de l'Ituri.
On est passé par ici à cette émission, cette tribune de presse de Radio Okapi pour fustiger l'attitude de certains candidats, à l'époque candidats députés nationaux, qui sont aujourd'hui au niveau de l'Assemblée nationale encore une fois, qui ont pensé que c'était une affaire fabriquée par Kinshasa. Lors de la campagne électorale, il y a des députés nationaux qui ont passé des faux messages pour induire l'opinion en erreur, et surtout la population de Beni Butembo en erreur, et Oicha, pour dire que non, c'est une fabrication de Kabila, parce qu'il fallait que Kabila parte. Kabila aussi est en train de fabriquer l'Ebola. Où? Vous savez que c'est n'importe quoi. Et aujourd'hui, on se rend compte que c'est une maladie effective qui est en train de décimer plus de 1600 morts. 1700 morts, voilà. C'est maintenant 1700 morts depuis août 2018 jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en juillet 2019. Vous savez que même si on affiche une haine contre le chef de l'État, l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, il ne faut pas aller jusqu'à ce niveau-là, tromper la population pour dire que c'est une fabrication de Kinshasa. Aujourd'hui, l'avenir nous donne raison.
Alors, comment on en est arrivé là, à ce qu'on puisse déclarer cette maladie comme étant une urgence sanitaire mondiale?
L'urgence sanitaire mondiale aujourd'hui, l'épidémie Ebola déclarée, il y a un problème, Guy Maté, le problème de gestion des fonds, le problème de sensibilisation, le problème de riposte aussi, et des groupes armés qui s'attaquent aux agents sanitaires, au personnel soignant. Ce sont les problèmes sérieux qui préoccupent aussi cette riposte contre le virus Ebola dans l'Est. Des personnalités qui ne savent pas quel message passer. On a vu aujourd'hui Moussa Nyamis qui est rentré, il est maintenant là-bas pour dire qu'il va mettre fin à Ebola. Mais quand il est arrivé là-bas, ça s'est encore aggravé davantage. Va-t-il mettre fin à Ebola quand, comment? Lui n'est pas personnel soignant, c'est un acteur politique. si les demandeurs de poste, si les demandeurs de poste,
vous venez tantôt de fustiger l'attitude de quelques hommes politiques.
Oui.
Et lui, il est homme politique, il va justement corriger ce que les autres n'ont pas bien fait et il va s'impliquer dans la sensibilisation. Cela a été demandé par.
Donc, peut-être en tant que leader d'opinion, mais comme stratégie, c'est pas son rôle. Il y a des structures, nous sommes communicologues, il y a des structures qu'on peut mobiliser et il y a des moyens conséquents pour arriver à un résultat. Mais il y a un problème de moyens. Ceux qui viennent, les mobilisateurs de fonds, et les fonds arrivent là-bas, il y a des points relais de l'OMS qui sont sur place, mais ils gaspillent beaucoup d'argent, au lieu que cet argent arrive à un résultat au niveau de la base, mais l'argent s'arrête à un niveau et ça se gaspille à ce niveau-là. Merci. C'est aussi un problème.
Merci, Joël Kadedanga, éditeur du journal Impact News, paraissant à Kinshasa. Déclarer l'épidémie d'Ebola comme urgence sanitaire mondiale, n'est-ce pas aussi un aveu d'impuissance de la part de tous les acteurs impliqués dans la riposte contre cette maladie?
Premièrement, l'impuissance du ministre en charge de la Santé. Je l'avais dit devant vous, je me rappelle. Le ministre de la Santé devrait d'abord démissionner au regard du nombre aussi affreux des morts, 1700 morts, chers confrères, dans moins d'une année, et lorsque on va atteindre l'année prochaine. Mais pourquoi les gens ne peuvent pas avoir le sens de l'honneur, le sens de la dignité, pour tout simplement reconnaître leurs échecs et laisser cette place à quelqu'un qui a déjà joué ses rôles à l'Équateur, qui avait été au front. Nous les avons vus sur les motos, nous les avons vus sur les vélos, dans les pirogues, pour lutter sur place et impulser la lutte et inviter la population à ne pas tuer ceux qui viennent contre cette maladie. Ça, c'est de un. Et de deux, je ne suis pas d'accord avec ces grossissements que l'on fait toujours sur des questions concernant la RDC. Cette aggravation, cette extrapolation de dire que c'est une urgence mondiale, c'est tout simplement pour vous mettre en difficulté. Sortez du pays, chers confrères. Vous verrez comment on traite les ressortissants de la République démocratique du Congo au regard de cette maladie qui est à Beni, qui est à plus de 2000 km de Kinshasa. Vous allez voir comment on nous traite dans les aéroports internationaux. Donc, à un moment donné, je me dis, c'est du business. C'est du business, on le sait. Mais il appartient au gouvernement congolais, comme le chef de l'État a été là-bas dernièrement. Il appartient aux agences des Nations Unies de sensibiliser d'abord la population, comme le fait Moussa Nyamouissi, nous le félicitons, comme que les autres leaders d'opinion, que les autres opérateurs politiques, que les opérateurs religieux, puissent sensibiliser la population pour dire que ce n'est pas une maladie créée ou fabriquée ou que ce n'est pas de la sorcellerie. La maladie existe réellement, mais que le gouvernement congolais puisse déployer les moyens conséquents, que les Nations Unies, l'OMS notamment, déploient des moyens pour qu'on mette fin à ce carnage qui est vu dans notre pays. Vous avez un compatriote qui a trouvé les médicaments contre la malaria. Mais il faut voir comment toutes ces firmes pharmaceutiques sont en train de lui faire la guerre. Il s'est même à le tuer parce que le produit contre la malaria l'élimine presque totalement parce qu'il entame même les racines du paludisme. Mais on est en train de combattre.
Merci.
Et on grossit toujours tout ce qui concerne la République démocratique.
Merci, Joël Kadedanga. Brunel Kachi, journaliste à Life Télévision émettant des Kolwezi, province de Lualaba. Vous venez sur Joël Kadedanga qui estime que déclarer Ebola urgence sanitaire mondiale, c'est une exagération. Est-ce que vous partagez ces points de vue?
Je ne pense pas vraiment, parce que au moins c'est la cinquième fois que l'OMS décrète une urgence de santé publique et portée internationale. Et pour cela, vous savez vraiment que l'Ebola actuel, ou l'épidémie actuelle d'Ebola en République démocratique du Congo est la deuxième, depuis 1976. Mais au-delà de ça, je suis en train beaucoup plus de condamner cette philosophie selon laquelle il faut tout temporaliser. Nous avons une classe politique qui tente presque à temporaliser tout, qui tente à mystifier tout et comprendre tout politiquement. Voilà les dangers qui est en train de courir actuellement la République démocratique du Congo. Et pendant ce temps-même, vous savez, combien de personnes nous avons perdues depuis l'avènement de cette épidémie en République démocratique du Congo, chers confrères. Vous vous souviendrez, vous avez même précisé, 1700 personnes. Ce n'est pas moindre. Et au-delà de tout, Une des choses également, il faut faire appel à l'expertisme. Ce n'est pas vraiment de l'ambiance. Lorsque ça sévit pour eux, quel nombre est en train de s'accroître. Pour les autres, c'est l'occasion pour elles d'applaudir, l'occasion pour elles maintenant de se chercher de l'argent. Je ne vois pas vraiment qu'on est. C'est vrai, je suis un personnel médical, mais au moins, je suis en train de voir vraiment qu'il est question ici de la volonté politique. Il est question ici de la volonté plutôt de voler au secours des autres. Et surtout, en même temps, où ces compatriotes en détresse se sont en train de faire un moment critique en train de traverser par des guerres et d'autres problèmes. Je pense vraiment que le gouvernement central doit voir de quelle manière mobiliser et vraiment mobiliser les différentes stratégies et mais aussi frapper les différents experts. Il y a les confrères qui a cité les différents noms des figures aussi emblématiques, capables ou susceptibles d'apporter une lumière, mais aussi une aide surtout adéquate dans ce secteur. Je vois vraiment que dans ces sens-là, c'est terminé avec par quand même s'acheminer vers un résultat quand même adéquat au lieu que nous puissions à tout moment nous fier sur les conséquences au lieu ou en lieu et place d'attaquer la cause. Je l'ai toujours dit, et pour donner solution à un problème, je ne sais plus pas aux conséquences, mais plutôt il faut attaquer les causes. Les causes sont multiples aujourd'hui. Et avec des problèmes tels que la maladie à virus Ebola, je vois vraiment qu'il faut beaucoup plus passer à l'action et laisser les temps aux politiques qui sont habitués de nager dans la philosophie selon laquelle la politique est un monde de malhonnêtes dans lequel les hommes se trompent mutuellement. Je ne vois pas vraiment que c'est raisonnable de nager là-bas parce que c'est une façon pour nous de nager dans la distraction et abandonner nos compatriotes à la triste sort.
Merci Claude Moulicho Kayembe. À la conférence de Genève lundi dernier, les participants ont identifié les manques de financement et l'insécurité comme étant des obstacles dans la lutte contre Ebola au Nord Kivu et à Ituri. Mais il y a des experts qui annoncent que plus de 220 millions de dollars ont été engloutis dans cette lutte jusque-là, mais on ne sent pas l'impact de ces financements. Est-ce qu'il ne faudrait pas envisager de repenser la stratégie comme le propose Brunel Kachi ou carrément changer l'équipe impliquée dans cette riposte comme le suggère le docteur Jean-Jacques Mouyembe de l'INRB?
Je l'ai dit ici que la gestion des fonds pour la riposte contre Ebola dans le Nord Kivu et le sud de l'Ituri n'est pas rationnelle. Vous parlez de 220 millions de dollars. C'est énorme pour moins d'une année dans ces coins-là. Alors, si la maladie pouvait s'étendre dans d'autres régions, dans d'autres pays, ça deviendrait vraiment une catastrophe. Alors, il y a un problème de gestion parce que ceux qui sont là, ils consomment beaucoup d'argent plutôt que les fonds réservés aux malades et à la sensibilisation et à la vaccination. Je l'ai dit ici, et je pense que Dr Mouyembe est rationnel, il faut qu'on change de stratégie. Ou soit, on change la méthode des circuits dans la gestion de ces fonds, ou soit, on change les gestionnaires pour qu'on arrive au résultat. Parce que l'argent est mobilisé.
Ou alors impliquer les experts comme lui, parce qu'apparemment, il n'est pas impliqué, le Dr Mouyembe.
Non. Vous savez que c'est du business, cette affaire d'Ebola aussi. Et on ne peut pas...
Et c'est quand même étonnant, des gens comme le professeur Mouyembe, qui ont fait leurs preuves ailleurs et ici chez nous.
Même au Liberia.
Maintenant, ils ne sont pas impliqués.
Voilà, c'est parce que c'est une affaire de gros sous. C'est ça, là, il faut dire la vérité. Nous devons... Il y a possibilité de faire la politique autrement dans ces pays. On ne doit pas seulement dire que c'est l'art des mensonges. Non, il faut dire la vérité au peuple. Et c'est 220 millions de dollars, c'est énorme. Et pour quel résultat aujourd'hui? Quand vous pensez que ceux qui sont là, ils ont des salaires, des sensibilisateurs qui arrivent, quelqu'un qui arrive juste pour quelques heures, ils touchent combien? Alors que ceux qui ont besoin de ces fonds n'en profitent pas. C'est un problème sérieux, Guimaté.
Joël Kadé-Danga, mettre fin à l'insécurité est l'un des défis à relever pour combattre efficacement cette maladie. Et à votre avis, comment la RDC pourrait s'y prendre?
Non, le professeur Mouyembe, vous l'avez dit, cher confrère. Il a proposé, il faudrait qu'on mette en place une équipe pluridisciplinaire en vue de combattre la maladie. Donc il faut impliquer le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Défense, ainsi que le ministère de la Santé publique. Et là également, nous avons dit que le ministre de la Santé doit démissionner. Il a prouvé qu'il ne maîtrise pas les réalités du terrain. Il est habitué à traiter les maladies outre-mer de la Belgique où il a été directeur de la clinique où était mort Étienne Tshisekedi. Donc, ici, il faudrait que le président de la République mette en place un comité de crise qui réunit aussi bien les experts du ministère de la Santé, les experts du ministère de la Défense, les experts du ministère de la Communication et Médias aussi, impliquer les médias d'abord pour sensibiliser la population, sensibiliser aussi même les milices qui pullulent à Beni et à Boutembo pour dire que même vous-même aussi vous êtes en danger. Donc il faudrait, comme ça se passe les corridors durant des guerres, qu'on ouvre toujours un petit couloir pour parler à ces miliciens-là qui sont aussi concernés par la fièvre à virus Ebola. Donc, si on ne le fait pas et qu'on attend que les Nations Unies interviennent, c'est chez nous que nous avons déjà connu une expérience. On est à la 10e expérience de cette maladie. Ceux qui ont stoppé la maladie au Libéria, en Guinée et ailleurs, ce sont les Congolais, ce sont les experts congolais. Et ces experts-là existent. Mais on les a écartés, comme l'a dit mon ami Molisso, une affaire de sous, une affaire de business. On les a écartés pour recruter de nouvelles personnes, tant au niveau international qu'à l'interne, parce que c'est un problème d'argent. Je crois que nous avons l'expertise ici, qu'on mette en place, comme l'a proposé le professeur Mouyembe, un comité pluridisciplinaire, un comité qui réunit les ministères concernés en vue de faire face à cette maladie. Parce que si on continue toujours dans son aspect du business, nous allons continuer à perdre nos frères, nos soeurs, et voilà que la ville de Goma a été déjà attaquée, et c'est possible que Kinshasa et les autres grandes agglomérations urbaines puissent être également attaquées.
Brunel Kachi, l'aspect insécurité, à votre avis, comment la RDC pourrait-elle relever ces défis? Parce que c'est l'un des défis qu'il faut relever pour combattre efficacement l'épidémie d'Ebola.
Oui, j'ai dit les meilleurs moyens d'y accéder seraient tout simplement de mettre en application les suggestions de nos confrères ou de mes confrères qui venaient de donner des suggestions, c'est lors desquelles il faut mettre sur pied un comité de suivi. Un comité de suivi, il faut toujours également promouvoir la sensibilisation. La sensibilisation, même avec ces troupes armées qui sont en train d'handicaper l'ordre social dans c'est quoi de notre pays, c'est le plus important. Faire savoir les dangers qui sont en train de courir, parce qu'eux-mêmes sont également exposés à ces dangers, ou à cette épidémie, ou à cette maladie, à virus Ebola. Et donc, au-delà de tout ça également, d'une autre part également, je vois vraiment qu'il serait mieux de sensibiliser également notre population. Surtout, les mesures hygiéniques doivent être prises avec beaucoup de considération, c'est laver les mains à tout moment, et surtout, se méfier de certains contacts. Là, c'est serait plus mieux. Et surtout, au-delà de ça également, il est plus important vraiment que les ministères de la Santé puissent se réorganiser. Parce que vraiment, c'est un échec à ciel ouvert. Depuis longtemps, nous les savons toujours, et pendant tout ce temps, nous sommes en train de les voir. Ce ministère a largement échoué. Et au-delà de ça, nous pensons vraiment qu'au lieu de faire une politique de bonne impression, de vouloir faire voir comme si on était en train de travailler, alors que c'est le contraire, je vois vraiment qu'il est plus question de changer peut-être la classe et cette fois-là, mettre une nouvelle équipe. Je vois vraiment qu'il y aura une nouvelle solution et surtout, ce serait vraiment une paix et surtout une inquiétude pour nos compatriotes des Sekwa de la République démocratique du Congo.
Merci Brunel Kachi, notre deuxième thème de ce soir. 6 mois après l'investiture du nouveau président de la République, le pays est toujours sans gouvernement avec deux premiers ministres. L'un expédie les affaires courantes et celui nommé il y a près de 2 mois n'a toujours pas formé son équipe. Pendant ce temps, au Sénat, l'élection et l'installation du bureau définitif ne sont toujours pas à l'ordre du jour. Reportage de Michel Kifindangoy.
Le premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba n'arrive toujours pas à former son gouvernement. Le FCC et le CASH ont des difficultés de s'accorder sur le partage des ministères. L'AFDC Adeba Atilukwebo, qui vient de quitter le FCC, affirme demeurer dans la majorité et soutenir la vision du chef de l'État et devrait en principe être prise en considération dans la formation du gouvernement, ce qui risque de ramener les négociations à la phase de départ. Au regard de sa force au sein de l'Assemblée nationale, du Sénat et des assemblées provinciales, l'AFDC de Baati représente aujourd'hui une force incontournable dans la configuration de la politique intérieure de la RDC. L'absence du gouvernement aujourd'hui rend la marche du pays assez lourde et les conséquences se font sentir dans le quotidien de la population. À la fonction publique par exemple, toutes les unités immatriculées en novembre 2018 ne sont toujours pas affectées et sont par conséquent privées d'emploi et de salaire. Comme si cela ne suffisait pas, au niveau du Sénat, l'élection du bureau définitif s'est fait toujours attendre sans aucune raison clairement communiquée. Tous les projecteurs sont plutôt orientés vers la guerre de positionnement entre le FCC qui soutient la candidature de Alexis Thambwe Mamba à la présidence du bureau définitif du Sénat et l'AFDCA qui présente plutôt la candidature de Modeste Bahati Lukwebo.
Merci à vous, Michel Kifindangoy. Joël Kadedanga, comment vous comprenez cette situation, hein? 6 mois après l'investiture de son nouveau président, la RDC n'a toujours pas de gouvernement, avec 2 premiers ministres, l'un qui expédie les affaires courantes, et celui qui a été nommé il y a environ 2 mois, n'arrive toujours pas à former son gouvernement. Comment vous expliquez une telle situation?
De un, c'est un manque à gagner pour la République parce que le Trésor public prend 2 premiers ministres en charge, celui qui expédie les affaires courantes et celui qui a été nommé. De deux, c'est la gloutonnerie du PPRD. Il s'agit de la crise au sein du Sénat, dans la course au perchoir du Sénat, qu'il s'agisse également du blocage des négociations. Il y a un problème de la gloutonnerie du PPRD qui frustre tous les partenaires. Ils doivent prendre tout, en termes de gouverneur, premier ministre, assemblée nationale, partout, c'est le PPRD ou rien. Et aujourd'hui, là, au niveau de Kisantu notamment, là où ça bloque, nous, des sources sûres, nous avons appris que le PPRD tient à prendre le ministère de l'Intérieur et celui des Finances. On sait qu'ils ont beaucoup de cadavres dans les placards. C'est vrai, il faudrait qu'on cache tout ce qu'ils ont montré comme insécurité au cas avec les phénomènes comme une ansapou et ailleurs, mais là, cache dit, sans les ministères régaliens, ils ne vont pas composer dans la coalition, ils vont laisser le PPRD seul composer son gouvernement, comme ça ils seront comptables de tous les affres auxquels nous serons exposés. Et puis, ce n'est même pas le PPRD dans son ensemble, c'est un groupuscule de 5-10 personnes qui prennent le pays en otage et ils ont érigé une clause dans cet accord-là que les négociateurs, ils sont ipso facto membres du gouvernement. Bon, mon angoisse, mes chers confrères. Donc, à un moment donné, il faudrait qu'on arrête avec ces gens qui ont été vomis par la population, qui ont passé par la corruption et qui doivent prendre tout le pays alors qu'il y a des urgences. Il y a la maladie d'Ebola dont nous avons parlé. Il y a l'insécurité dans l'Est. Nous avons besoin d'un gouvernement pour prendre en charge toutes ces questions d'urgence, mais ces 10 individus qui sont à compter au bout de doigts prennent le pays entier en otage en voulant quand même puissent retourner dans les affaires où ils ont montré leur cuisant échec. C'est vraiment regrettable et que Kabila continue à les supporter, à supporter ces gens qui ont creusé sa tombe, qui convoitaient son fauteuil au lieu de préparer la révision qui était attendue, qu'il continue à les garder. Moi, je ne comprends pas où est-ce que nous sommes en train d'aller.
Merci, merci Joël Kadé. Claude Molucho Kayembe, il y a des observateurs qui attribuent cette situation à l'intransigeance du FCC qui refuse de céder certains ministères, notamment les ministères régaliens au chef de l'État. Vous avez suivi même Joël Kadé Danga qui parle de la gloutonnerie du PPRD.
Mon cher ami, Joël Kadé doit apprendre d'abord que en politique, c'est un jeu d'intérêt et de rapport de force.
Même quand ces intérêts vont à l'encontre de ceux de la collectivité, de ceux du peuple.
Quand les gens vont en négociation, il y a ce qu'on appelle les principes de négociation. On a dit il n'y a pas de négociation sans compromis, il n'y a pas de compromis sans concession, il n'y a pas de concession sans reconnaissance mutuelle. Il y a déjà reconnaissance mutuelle, c'est-à-dire qu'ils vont arriver à un compromis.
Mais apparemment, dans des cas d'espèce, il n'y a pas de concession mutuelle.
Bien sûr, il faut négocier. Parce qu'il y a ce qu'on appelle les poids politiques. Aujourd'hui, Joël Kadé doit savoir que le FCC est majoritaire. Et à l'Assemblée nationale, et au Sénat, et aux assemblées provinciales, des gouverneurs de province. Donc, dans toutes ces structures-là, des décisions, des prises de décisions, le FCC est majoritaire. Il veut quoi? Et le PPRD ou le FCC doit s'effacer comme ça, parce qu'il dit que non, les gens ont été vomis. Qui a vomi? Quelle population? Qui ont été vomis? Non.
Mais vous pensez qu'il faut aller jusqu'à à occuper les ministères régaliens, les ministères de collaboration,
non,
pour ne pas s'effacer?
Non, il y a des domaines de collaboration. La Constitution, en son article, si je m'abuse, 48 ou 49 comme ça, précise les domaines de collaboration, affaires étrangères, tout ça, avec le chef de l'État, avec le premier ministre. Le chef du gouvernement, c'est le premier ministre Ilunga Ilunkamba, c'est le chef du gouvernement. Mais ici, on est en train de négocier les portefeuilles. Si on parvient à équilibrer les choses, intérieur, finance, défense, affaires étrangères, on essaie d'équilibrer les choses, il n'y aura pas de problème. C'est voilà pourquoi ils sont en bout de la loge pour négocier.
Apparemment, on n'arrive pas à équilibrer la chose parce que les cash dénoncent.
Parce que Joël Kadia est en train d'accuser les PPR.
Claude Bolicho, les cash dénoncent le fait que le FCC voudrait avoir à la fois la Banque Centrale, le ministère des Finances, ainsi que celui de Vigier.
Non, nous ne sommes pas encore au niveau de la Banque Centrale ou des entreprises. Nous sommes au niveau du gouvernement. Nous sommes au niveau du gouvernement et les négociations ont pris du temps. Il y a des fois. Les délégués qui sont en négociation rentrent et ils font les rapports à leur autorité morale respective. Et aujourd'hui, nous savons que les choses sont en train de se discuter à ce niveau-là.
Mais ça n'évolue pas.
Ce sont des petits réglages et je pense qu'ils parviendront. Et parce qu'il n'y a pas de crise entre FCC et Cash, ils sont dans la même famille, dans la coalition, ils arriveront à un résultat. Mais il ne faut pas réfléchir comme Joël Cadet qui est en train de prendre parti pour un camp. C'est pas bon, c'est un journaliste qui doit être rationnel. Je suis en train de mesurer le poids politique. Parce qu'aujourd'hui, les FCC, on peut pas, même si c'était quelqu'un d'autre à part Félix Antoine Tshisekedi qui était au niveau de la présidence de la République, il pouvait toujours négocier avec les FCC parce que les FCC a la majorité dans toutes ces structures.
Brunel Kachi, que répondez-vous à ceux qui semblent banaliser cette situation en disant que c'est la première fois, n'est-ce pas, que le pays se trouve devant une situation où le président de la République n'a pas de majorité au Parlement et donc ce qui se passe ne devrait pas nous inquiéter étant donné que c'est une première expérience.
Voilà, cher confrère Guy Maguet, pour moi, les retards manifestent dans la sortie du gouvernement. Ilunkamba mérite une dissertation et relève tout simplement, mon avis, d'une crise d'entendement au sein de la coalition CCH. Avec un esprit éveillé et plein de sagesse, je vois mal vraiment l'avenir de ces mariages qui sortent déjà des indices d'impuissance. Et ces indices ont d'ailleurs tendance à dénaturer l'espoir de tout un peuple qui, du reste, espérait du jour les jours un changement. Je voudrais ici, chers confrères, parler de la désignation des animateurs après la clé des répartitions des sièges, telle qu'elle avait explicité M. André Alain Toudou dans son point de presse, lequel d'ailleurs je suis avec attention. Il dit, si je ne m'abuse, qu'il est question de miser sur les compétences et surtout sur les personnes qui vont rencontrer plutôt la volonté de l'autorité morale ou la satisfaire. En tout cas, mais je suis en train de me constituer fortement une opposition contre cette raison. Je m'inscris, en tout cas, en faux. Et je la remets vraiment en cause car il n'y a rien du droit. Et pour moi, il s'avère qu'il y a quelque chose, hein, qu'il y a quelques points. Des désaccords, surtout que la FCC vient encore s'emparer de tous les 7 postes du bureau exécutif du Sénat au détriment du cash. Et vous allez voir vraiment que les francs-communs pour les Congos, qui croient tout mériter pour sa force parlementaire, voudraient avoir tout ce qui est stratégique comme poste pour rester et surveiller le pouvoir, ce qui rencontre toujours des désaccords de son partenaire Cash, et les Cash lui-même, qui est sans défense, souhaite apporter un nouveau souffle, d'après mes analyses, en insistant sur un compromis cartésien, tel qu'il faut. Il faut passer toujours par un raisonnement logique pour dire que les anciennes figures qui ont fait preuve plutôt des mauvaises gestions dans les régimes passés ne puissent plus encore apparaître. Et pendant toutes ces tractations, ces feuilletons, qu'est-ce que la population, cher confrère Guy Maguet ? La population même qui les a mandatés, quelle est sa part ? Car chacun de ces derniers les voit et ses intérêts. En tout cas, la population est en train d'observer. Les politiques congolais doivent apprendre à respecter ceux qui les ont mandatés. Et respecter ceux qui les ont mandatés, je les répète, chaque fois et toujours, c'est savoir réfléchir à leur place.
Merci.
Réfléchir à la place des autres, c'est ça même faire la vraie politique. Au lieu de nager dans l'insensibilité aux souffrances de sa population, je vois vraiment que c'est une politique qui ne paye pas. Et au-delà de ça, c'est tout simplement une manière de faire légèreté, de faire discerner plutôt la légèreté avec laquelle l'on veut suyer le président Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi, qui a été voté massivement par la population congolaise et qui souhaite du jour au lendemain voir un changement. Voyez vraiment que nous sommes dans un contexte où les FCC voudraient mettre sur pied la politique d'intimidation, des mensonges et des corrections. Ce qui n'est pas bon. Et au-delà de ça, il faut vraiment accepter que vous avez perdu les élections et laisser la chance à M. Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi, qui lui-même répète à tout moment que le peuple est d'abord. Le peuple doit savoir bénéficier parce que le peuple est vite alors.
si Joël Kadé Danga a cette allure, même quand le gouvernement sera formé, est-ce qu'on ne risque pas d'avoir dans la même équipe gouvernementale des ministres qui font allégeance au chef de l'État, Félix Tshisekedi, et ceux-là qui obéissent à d'autres personnalités?
Bon, le décor avait déjà été planté par Joseph Kabila, qui savait que le fond de fin n'allait pas passer. C'est deux. Donc, ça sera difficile, c'est le décor, c'est le plan B que Kabila avait arrêté pour bloquer l'évolution de la machine et que Félix ne puisse pas réussir, de telle sorte que les calculs pour 2023, il puisse rentrer. Et c'est là que nous en appelons vraiment à la diligence du chef de l'État. Il peut, en attendant, confier les charges aux secrétaires généraux parce que, chers confrères, à l'instant, à l'heure qu'on est, la situation est grave. On a besoin d'un gouvernement qui devra répondre devant l'Assemblée nationale et qui devra mettre en action les programmes de gouvernance qui a été convenu par le chef de l'État.
Merci, Joël.
À cette allure ici, avec la gloutonnerie, la gourmandise de quelques personnes du PPRD qui prennent tout le pays en otage, c'est au contrôle, le pays a été déjà dédié au Seigneur, Dieu va s'occuper de leur progéniture.
Merci Claude Moluche au Kayembe. Que faut-il pour sortir de cette situation?
Moi, je pense qu'il faut parler, négocier.
Vous estimez qu'il n'y a pas de crise, mais que faut-il pour sortir de ces blocages? Parce que vous
ne
voulez pas
appeler ça crise. La flexibilité, Guy Maté, pour tous les deux camps. Moi, je pense qu'aujourd'hui, d'abord, Joseph Kabila et Félix Tshisekedi, ils se parlent. Il y a à Mbouéla Lodge des négociations de ces deux camps, CACH et FCC, et on se parle. C'est question maintenant d'être flexible et puis arriver à un résultat, parce que il y a urgence, on a besoin d'un gouvernement. D'ici le 20 juillet, ça fera deux mois qu'il n'y a pas de gouvernement. Alors, moi, je me pose la question. Même tout ce qu'on est en train de faire ici, on doit construire les logements sociaux pour les militaires et pour les policiers, avec 57 millions que Vital Kamerhe a signé la lettre. Il a signé, et puis il dit sur l'instruction du chef de l'État. En tant que qui? Lui, il est directeur de cabinet. Donc, moi, je pense que ce n'est pas la bonne méthode de gérer les pays. L'argent sort, mais l'argent ne suit pas les circuits normaux. Est-ce qu'on a lancé la possession des marchés?
C'est pourquoi il faut
urgence pour que le gouvernement, oui, pour que le gouvernement s'installe, que le gouvernement soit nommé et investi par l'Assemblée nationale.
Merci.
Pour qu'on avance. Nous disons qu'il y a urgence. Vraiment, je pense que le chef de l'État est en train de nous suivre. Sinon, on va le faire tomber par ses propres collaborateurs.
Oui, Brunel Kachi, un mot en guise de conclusion.
Ah, un mot en guise des conclusions, c'est peut-être une occasion pour moi de demander au président Félix-Antoine Tshisekedi de se mettre en tête qu'il est le premier conseiller de lui-même avant ceux qui l'entourent, qu'il veille au bon fonctionnement des institutions telles qu'elles les prévoient. La constitution, c'est peut-être se serrer dans l'intérêt
de
tous les peuples congolais qui l'ont mandaté, et surtout 5 ans après. 5 ans, vraiment, c'est pas beaucoup. Il doit vraiment rentrer à la raison et surtout se mettre en tête qu'il faut savoir vraiment respecter les textes qui sont en train de nous régir ici en République démocratique du Congo.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à Bob Landou qui est à la technique et Kéline Kouté qui a réalisé cette émission sous la supervision de Pelé Kipela Mondo. À la présentation, Guy Maté. Merci et bon week-end sur Radio Capi.